Nous sommes toujours présents aux rencontres du 7e art de Lausanne et nous avons le plaisir d'accueillir dans cet hôtel Beau Rivage l'invité d'honneur, on va dire ça comme ça, en la personne de Marine Karmitz. Bonjour Monsieur Karmitz.
Bonjour Monsieur.
Bienvenue à la radio du cinéma et vous avez eu les honneurs de cette fameuse statuette magnifique de Charlie Chaplin qui est le seul prix entre guillemets officiel du festival qui couronne, on va dire, une carrière, une personnalité. Et vous, c'est tout ensemble. Et vous allez vous présenter à nous, Monsieur Karmitz, parce que vous avez finalement plusieurs vies de cinéaste. Vous avez réalisé des courts-métrages, des longs-métrages. Vous en avez produit énormément. Et en plus, vous avez créé en fait une marque de cinéma qui s'appelle donc MK2. Et tout ça, vous allez, si vous le permettez, si vous voulez bien, nous présenter en fait votre vision du cinéma, à partir de quand ça commence et finalement vers où ça vous a mené.
Merci pour toutes les choses agréables que vous dites sur moi. J'ai effectivement été célébré hier soir et j'ai été très touché par cette célébration parce que elle était autour de Charlie Chaplin.
Oui, bien sûr.
Et que Charlie Chaplin, puisque toute la famille Chaplin était présente, enfin une grande partie de la famille Chaplin.
Les deux sœurs en tout cas, Dolores et Carmen. Hein.
Exactement, étaient présentes et que j'aurais dit qu'on était en train de fêter nos 25 ans de mariage. C'est donc un mariage d'argent, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai commencé à travailler avec les Chaplin il y a 25 ans.
Ça, c'est quand même fabuleux.
Et donc, c'est fabuleux. Ils m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à MK2 il y a 25 ans. Et donc, cette double coïncidence entre mon histoire et la leur m'a évidemment profondément touché.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, MK2 est né en 1974, ça existait un peu avant sous un autre nom qui était MK, mais donc Marine Karmitz 2, puisque le 1 avait déjà été pris.
D'accord.
Ça a commencé en fait avec la création d'une salle à la Bastille, quartier populaire à l'époque, pas du tout aussi à la mode que maintenant.
Oui. Moins boboisé.
Beaucoup moins. Je crains d'avoir participé à son évolution, d'accord, dans le bon sens et dans le mauvais sens.
Oui.
Et j'étais entouré, en face, il y avait une salle porno, et à la place de l'Opéra Bastille, il y avait une salle Parafrance qui passait des films de karaté,
d'accord,
essentiellement,
d'accord,
et des westerns. Grande salle populaire. Et moi, avec mes petites salles art et essai, où il y avait en même temps une librairie, des expositions de photos, de la musique, bref, une autre façon de faire du cinéma, les gens étaient assez surpris au début. Et je passais surtout des films en version originale, sous-titrés. Et ça, c'était très peu...
Très innovant pour l'époque.
Très innovant. Très innovant. Dans la mesure où il y avait une espèce de ghetto au quartier latin où ils passaient des films en version originale.
Oui.
Mais c'était quasiment le seul endroit dans Paris qui passait des versions originales sous-titrées. Et donc c'était un élément de plus pour les versions sous-titrées. Et très vite, cette programmation qui était faite de bric et de broc, on n'avait pas un sou, des salles étaient petites... est devenu vraiment un lieu extrêmement...
Un repère de passionnés, finalement.
Un repère de passionnés, et où il y avait des débats en permanence sur des sujets de société.
Bien sûr.
Que ce soit l'avortement, que ce soit l'état
oui,
de prison...
Oui, des thèmes forts.
Bref, tout ce qui
des intéressait. Thèmes
des thèmes forts, qui sont toujours d'ailleurs des thèmes forts et pas résolus. Et puis, très vite, devant ce succès, j'ai racheté une autre salle à Montparnasse, qui était le cœur de l'art et essai des cahiers du cinéma. Parce que cette salle, moi je l'avais fréquentée, c'était pas très loin de la Cinémathèque,
d'accord,
et il y avait un exploitant qui faisait des concours tous les mardis soirs, et si on répondait aux questions qu'il posait, on avait des places gratuites.
D'accord.
Mais il y avait dans cette salle toute l'équipe des Cahiers du cinéma, c'est-à-dire Truffaut, Godard, Chabrol, Romère, etc.
La nouvelle vague.
Ça s'appelait le studio Parnasse.
Le studio Parnasse.
Le fameux studio Parnasse. qui était à vendre, il était en faillite, etc. Donc j'ai repris le studio de Parnasse, j'en ai fait aussi 3 salles, et c'est devenu un deuxième point de diffusion, en version originale aussi. Il n'y avait pas, à l'époque, sauf ce studio Parnasse, mais qui passait des vieux films, il n'y avait pas de version originale à Montparnasse.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je crois que le cinéma, l'émancipation du cinéma, passe par l'audace qui est la mienne? Qu'est-ce qui a décidé de ça?
En fait, je n'ai pas essayé de faire des salles de cinéma, en particulier à la Bastille, mais un point de ce qu'on appelait à l'époque de contre-culture. C'était un mot à la mode, la contre-culture. C'est-à-dire que pour moi, c'était un lieu d'agitation intellectuelle, d'agitation militante, et donc d'où le mélange entre livres.
Vous avez suscité le questionnement, finalement, en fait. C'est ça qui est important.
C'était amener les gens à se poser des questions hors cinéma. C'est-à-dire le cinéma dans la société, le cinéma dans la cité. À quoi ça sert, le film? C'est d'accord, c'est un spectacle, on prend plaisir, etc. Mais dans mes salles, ce que j'ai souhaité faire, c'est faire des salles où on puisse aussi réfléchir, où on puisse aussi sortir en ayant des combats à mener, assumer certaines responsabilités, etc. Il y a vraiment des lieux d'interférence entre la société.
Des lieux engagés, finalement.
Des lieux engagés.
On va quand même repréciser, ça c'est important de le dire, le nombre de films que vous avez produits. Parce que là, le chiffre est quand même assez éloquent.
J'ai produit... entre donc 1980 à peu près, puisque j'avais du mal à produire avant, et puis le moment où j'ai arrêté, et mes fils continuent à produire. Ils ont produit beaucoup de films cette année qui ont eu la plupart des prix au Festival de Cannes, entre autres. Ils ont eu 15 nominations aux Oscars, donc ils ont largement battu mes propres records.
Bon. La suite est assurée.
La suite est largement assurée. Bon. Et j'ai produit 120 films.
Ce qui est considérable.
Hein. Donc quelques-uns qui sont... Enfin, ils sont tous très beaux, voilà. C'est tous des enfants réussis, voilà. Je les aime tous, mes films. Et alors, je peux parler de films autres que les miens. Mais par exemple, je peux vous parler d'un film qui est Pickpocket, de Robert Bresson.
Excellent.
Qui est maintenant dans notre catalogue. D'accord. Et j'ai mis 20 ans à pouvoir l'acheter, trouver les droits et l'acquérir. Et pour moi, c'est un des très grands chefs-d'œuvre du cinéma.
Je sais que vous me soupçonnez. Si vous croyez avoir le droit de m'arrêter, arrêtez-moi.
Je vous ai laissé bien tranquille, au contraire.
On va se quitter sur ce grand chef-d'œuvre. Merci infiniment, Marine Karmitz, pour ce joyeux moment de partage de passion de cinéma.
Merci.
Et puis, bah, écoutez, MK2, c'est une marque de cinéma qu'on aime beaucoup. Et donc, on continuera à promouvoir vos actions à travers vos différentes initiatives. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Hein. Merci.